Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
Je vais passer, Louis-Philippe, du côté de la succursale Polestar à Laval, qui est évidemment la seule au Québec pour le moment. On planifie d'en avoir une seconde sur la Rive-Sud très prochainement.
Ouais.
Et là, évidemment, ben ils ont en exposition le Polestar 3, qui va finir un jour peut-être éventuellement par arriver sur notre marché. Le véhicule qui est là-bas est non disponible à la vente, mais ils ont une version de pré-production que les gens peuvent voir si jamais on veut passer une commande sur ce produit-là. Et là, ce qui est assez particulier, c'est que avant même qu'on commercialise le Polestar 3, ben toi, tu as pu aller essayer le Polestar ou la Polestar 4.
L'utilitaire Polestar 4.
Puis c'est pas
c'est
clair.
C'est mélangeant des chiffres.
Non, puis c'est pas clair si c'est une voiture, un VUS. On sait pas trop. Moi, je suis encore pas certain de l'absence de la lunette, là.
Ouais.
Mais tu as pu aller essayer ce produit-là. Comment on le positionne d'abord chez Polestar, le produit, face à la compétition? C'est quoi la rivalité directe du Polestar 4?
C'est difficile à dire parce qu'on essaie de faire avec le Polestar 4, embarquer un peu sur la mode des utilitaires coupés. Hein, des utilitaires coupés chez Mercedes, BMW, etc. Et puis, selon les designers, la seule manière qu'on pouvait faire ça, c'était en enlevant la lunette arrière et en mettant une caméra à la place. Pour ça, je vais en revenir à ça, cette feature-là. Mais ça donnait...
Est-ce que tu vois ça comme un rival du Macan EV, du iX2, par exemple, qu'on a en Europe, ce genre de produit-là? Ou est-ce que c'est un véhicule plus volumineux?
C'est un véhicule qui va être plus abordable, en fait, parce qu'on a reçu les prix. Là, puis définitivement...
Que le Macan, ça, c'est sûr.
Oui, ça, c'est sûr. Ça, je peux te le garantir. Est-ce que plus volumineux, tu sais, on parle... Il est à peu près 30 cm de plus long que la Polestar 2, la berline Polestar 2. 2 pouces plus court que le Polestar 3. 2 pouces plus étroit. Donc, le Polestar 3, on ne l'a pas vu encore. Là, je sais, il faut quand même l'imaginer. Vous pouvez passer à la salle de montre, mais c'est un véhicule qui est un petit peu plus gros. Le Polestar 4 se situe entre les deux, entre la Polestar 2 et la Polestar 3. Là, il ne faut pas que je me mêle dans mes chiffres parce qu'on a encore là, on va remplacer, on vient de lire ça là, aujourd'hui, on va remplacer la Polestar 2 par la Polestar 7 qui va être la suite de cette Polestar 2-là. On n'y va pas dans les grosses.
C'est un festival de bonnes idées qu'on a là-bas avec les noms.
Ça me fait penser à Mercedes. À un moment donné, on va manquer de chiffres puis on va y aller avec des sons. Là,
c'est ça.
Mais c'est ça. Donc, c'est pas mélangeant du tout. Mais
tout pour dire que 10 voitures, ils vont sortir un complémentaire.
Un X, un Z. Mais tout pour dire que c'est ça. Ça se positionne entre la 2 et la 3. La 3 qu'on n'a pas vue encore, la Polestar 4 devrait arriver. C'est sûr que c'est un véhicule qui est moins cher que la Polestar 3, parce que la Polestar 3, ça touche ses 100 000 $ Ça touche 100 000 $ Beaucoup de technologie dans ce véhicule-là. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais beaucoup de technologie. On dit dans la Polestar 4, c'est quelque chose qui ressemble plus à la Polestar 2 en termes de technologie. Puis il y a un intérieur, un habitacle typique
très
Polestar
épuré,
2, très épuré. On parle de textures qui sont issues de matériaux recyclés, etc.
Je suis certain qu'il y a 170 personnes qui ont été engagées pour te faire une belle chanson, là, pour t'expliquer à quel point le velours est extraordinaire puis que le tissu est recyclé.
On sauve les tortues là, dans l'océan avec ça. Mais somme toute, un véhicule qui est performant. Hein, on parle de... On a un système, c'est similaire au Polestar 3, on peut l'avoir avec le moteur à l'arrière, donc les roues motrices arrière. Deux moteurs, évidemment, pour le rouage intégral. Une batterie plus petite que celle de la Polestar 3, il fallait quand même faire une différence parce qu'un véhicule à 100 000 $ versus le véhicule que vous allez apprendre le prix qui est un petit peu plus bas, qui est admissible à certaines subventions.
Pour le moment.
100 kWh, donc l'ensemble de batterie, qui est quand même, on y va pas dans des petites batteries.
Fait que c'est lourd, là.
C'est pesant.
Ouais.
544 chevaux pour la version à deux moteurs et 272 chevaux pour la version à propulsion. Fait que c'est quand même, on a de la performance, un véhicule européen. 483 km pour le véhicule à rouage intégral et 434 km pour le véhicule à propulsion. Donc, jusque-là, tout va bien. On
Est-ce
a
que
quand
c'est
même
la
des
même
choix.
Plateforme que la Model 2, que la Polestar 2?
Oui, c'est la même plateforme. C'est la même plateforme que c'est la plateforme SEA, Sustainable Experience Architecture,
okay, donc,
qui est la 3. Là.
Oui, oui, qui est le 3, mais qui n'a rien à voir avec le XC40, le C40 et le Polestar 2.
Non.
Donc, c'est complètement autre
chose. C'est ça, okay. Exactement. Un véhicule qui est pesant. Là, si je me rappelle bien dans les chiffres, je ne les ai pas devant moi, mais c'était 5 300 livres, je pense, pour le modèle à deux moteurs.
C'est quand même pesant.
Moi, je l'ai conduit sur un centre de test, hein, Volvo. Donc, c'était des véhicules de pré-production. On les amenait pas sur la
Volvo
route.
Ou...
Ben, Volvo, pour le temps, tu vois.
Ouais, on se mélange tout le temps.
C'était chez Volvo, sur le centre de test de Volvo.
Ah, mais c'est deux marques qui ont rien
mais qui
à
ont
voir.
Rien, non,
absolument.
Non.
Là, c'est complètement
Polestar distinct. Et Volvo. Ouais, on n'a jamais vu ça, le signe Polestar chez Volvo.
C'est... Non, c'est ça.
Donc, c'était un centre de test. Donc, on a pu brasser en bonne et due forme les véhicules. Moi, j'ai trouvé que les gens qui ont designé ce châssis-là ont fait une bonne job à tromper un peu ce poids-là. Puis moi, c'est quelque chose que je remarque tout de suite dans les véhicules électriques. C'est la première affaire maintenant qu'on teste depuis des années.
Ah oui.
C'est comment la pesanteur est gérée. On a une suspension adaptative sur le modèle à quatre roues motrices et non sur le modèle à propulsion. Puis j'ai trouvé que le modèle à propulsion plus abordable, on n'y enlevait rien, même sans cette suspension adaptative-là.
Et plus léger, forcément.
Ben c'est ça ouais. aussi. Fait que ça n'y enlevait pas grand-chose. On allait chercher puis on en prenait. Donc, pour un véhicule de 2,5 tonnes, c'est quand même impressionnant. À l'intérieur, évidemment, on va me demander la lunette arrière. C'est ça, sur une piste de course, on
teste
pas vraiment.
Faut expliquer un peu le contexte. Pour ceux qui nous écoutent à la télé, ben vous allez voir une image. Mais pour ceux qui nous écoutent à la radio, ben faites-vous une image.
Le véhicule est dépourvu de vitres à l'arrière, de lunettes arrière. On a remplacé ça par une caméra qui diffuse l'image dans le rétroviseur intérieur. Ok.
Bon, ce qui est quelque chose qui devait éventuellement arriver dans la mesure où de plus en plus de véhicules sont dotés de rétroviseurs caméra, justement.
Ouais.
Mais au niveau du look, ça clash. Puis au niveau de l'imaginaire de ne pas avoir de lunettes arrière, c'est pas un chevivan, là. Ben, à un moment donné, tu veux avoir...
C'est ça. T'as deux options. T'as un cube, un pick-up bien loadé ou bien...
Oui, c'est ça.
Mais... Comme la livraison. Mais... Et sur la piste, j'ai pas pu vraiment faire des manœuvres comme en ville. T'sais, donc, c'est sûr que ça va jouer beaucoup. Parce que la distance ici, la distance dans le rétroviseur extérieur et puis le réflexe de juste se retourner n'a pas été vraiment, vraiment exploité. Par contre, pour les gens en arrière qui sont assis à l'arrière, ça fait quand même un peu weird que quand tu regardes, tu vois juste un mur.
T'as-tu dit pour les gens en arrière qui sont assis à l'arrière?
Oui, j'ai
pas
dit
mal
ça.
À l'arrière,
c'est ça,
hein?
À l'arrière. Hein? Okay. C'est pas trois rangées, là. C'est
non,
deux
non,
rangées.
C'est ça. OK.
C'est pas à l'arrière de ceux à l'arrière.
Alors, la facture.
Bon, en termes financiers, on parle de 64 900 $ pour le modèle à propulsion.
Oh, surprise!
Donc, un petit 100
$ admissibilité au crédit, puis ça va baisser dès 2025.
Bon,
OK.
Puis un crédit provincial, pardon. Et puis 75 000 à débourser si on veut un modèle à rouage intégral.
Ben, essentiellement, c'est la fourchette de prix d'un modèle Y, là. On est dans le territoire d'un modèle Y, on joue carrément là-dedans, là.
C'est un véhicule qui est plus gros, plus spacieux, etc., etc., mais c'est ça. 87 500 pour quand c'est loadé. Donc, on a quand même un véhicule.
Oui, oui. On va jouer dans ce territoire-là. Et est-ce qu'on a mentionné quand le véhicule arrivait?
Si je me trompe pas, ça devrait arriver vers la fin 2024 pour les Polestar.
Donc,
4.
Quand même après le Polestar 3.
Oui, quand même après le Polestar 3. C'est parce que lui, c'est ça. Ça a été long pour le Polestar 3. Il y a eu des délais. Puis là, maintenant,
il y
en a encore.
Bon, donc, moi, c'est pas mal moins exotique, mon essai de cette semaine.
Oui.
C'est une Nissan Sentra qui a été... partiellement redessiné, la partie avant. On a ajouté le système arrêt-démarrage sur la voiture, modernisé quelque peu certains éléments de style. L'écran à l'intérieur s'est demeuré le même. On a-tu modifié des fonctions? Peut-être. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on conserve en 2024 la boîte manuelle pour la version S de base et la version SR haut de gamme. Ben, haut de gamme, enfin. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais c'est le fun, une boîte manuelle dans une version qui est un petit peu plus étoffée, parce que c'est rare qu'on voyait ça. Dans la... Oui,
mais c'est la seule berline de ce marché qui est offerte avec une boîte manuelle avec la Jetta. Alors, si tu analyses aujourd'hui la Corolla, la Civic, la Mazda 3. La Mazda 3 peut avoir une manuelle, mais en hatchback seulement. Mais Civic, c'est la même chose aussi. Tu peux avoir une manuelle dans l'hatchback. Mais dans les berlines, il n'y a plus rien à part la Sentra et la Jetta. Et la Sentra en boîte manuelle n'est pas offerte sur le marché américain. Alors, pourquoi nous, on en bénéficie? Une seule réponse, la Sentra Cup. La Coupe Nissan Sentra qui est disputée à travers la province, l'Ontario. Ça s'en va aux États-Unis cette année pour la première fois.
Oui, oui, j'ai
vu
ça.
On va amener une course là-bas. C'est la seule raison pour laquelle on l'offre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'acheteur de manuel désormais chez Nissan pour la Sentra. Je pense qu'il faut lancer la serviette. Là. Et honnêtement, le défaut de la boîte manuelle, c'est que tu vas consommer 20 % plus d'essence qu'avec la boîte CVT qui a été retravaillée. Et ça a permis d'abaisser la cote de consommation d'un autre 2 000 litres au 100 km. Alors moi, j'ai fait 240 km avec la voiture pour une moyenne combinée à 6,3. Et c'est une version SR avec les grosses jantes. Là.
Avec les
grosses
jantes.
Alors c'est quand même vraiment pas vilain. Mais constatation un peu drôle quand même, c'est que c'est la seule berline dans son segment qui n'offre qu'une seule configuration mécanique. Alors, tu as un moteur 2 litres, 149 chevaux, c'est tout. Si tu regardes la Civic, il y a 3 offres mécaniques dans la berline, incluant la SI. Il y en aura une 4e avec l'hybride l'an prochain.
Ouais.
La Corolla, il y a une hybride. Il y a évidemment le moteur 2 litres, 169 chevaux. Si tu vas dans l'hatchback, il y a autre chose. Jetta, ben, tu as le modèle de base de la GLI. Impreza, tu as le 2 litres, le 2,5. Tout le monde a une offre mécanique diverse.
Ouais.
Chez Nissan, un moteur. je m'en ai dit, une transmission, c'est pas vrai. On a une manuelle, mais en vérité, bonne chance pour en avoir une. Une manuelle, je suis pas sûr qu'on en produit énormément.
Ouais.
Alors, c'est Nissan a décidé de focusser là-dessus. C'est vraiment un produit qui est efficace, qui est à point, qui consomme peu, qui a prouvé sa fiabilité
ben ouais, ce moteur-là est très fiable.
Et qui coûte à équipement équivalent, là, j'ai fait des comparatifs, à peu près 4 000 $ de moins qu'un Civic. Alors, si tu prends une Honda Civic Touring, oui, qui a une mécanique un peu plus puissante, certes, là, mais si tu prends, par exemple, une Civic Sport, qui serait peut-être l'équivalent de la Sentra SV, tu as un bon 4 000 de différence entre les deux. C'est difficilement justifiable, honnêtement. La Sentra est une voiture qui se défend très bien, une des moins chères du marché, puis ça vient aussi répondre à la question suivante, mais pourquoi j'achèterais une Versa s'il y a une Sentra à côté qui est vendue pour 2 000 $ de plus, puis qu'en plus, on te la finance à un taux plus faible. La Versa a signé son arrêt de mort, c'est terminé.
Ouais, je pense
Et moi, je trouve qu'il y a encore une pertinence pour les sous-compacts, mais dans ce cas-là, pas vraiment, parce que Nissan...
C'est comme si on voulait
on,
pas, là.
On fait tout pour pas
on
la
veut
vendre.
Pas, là.
On fait tout pour pousser la Sentra, pour ne pas pousser la Versa. Et quand on voit des Versa récentes, ben il y a toujours une plaque F dessus avec un autocollant Enterprise au budget. C'est ça, une Nissan Versa aujourd'hui.
Ouais.
Alors que la Sentra a quand même cet avantage d'être une voiture pas mal plus désirable, à prix très attrayant. Là, la voiture que j'ai mise à l'essai coûtait 33 000 $, mais loadée au bouchon, comme on dit. Ça part à 25 000 une Sentra avec un équipement déjà décent. Et à 25 500 vous avez une version SV très bien équipée. Vous avez tout ce que vous avez besoin là-dedans. Là.
On reste dans une braquette de prix qui est quand même très intéressante.
Alors qu'une Civic, de base, ça part à 30 000
$. Ouais.
C'est plus les 16 998 qu'on a connus il y a quelques années avec des taux à 0,9. Là.
Non.
Mais c'est quand même une voiture passablement attrayante face à la compétition dans un segment qui est, qui est, qui n'est pas sur une pente ascendante. Il faut le souligner, là, les voitures compactes, ça perd en popularité.
Ouais, on en perd tous les ans.
Que les intermédiaires. Tu vois, on a vendu quoi? 9000 Sentra l'année passée, mais on a vendu 1500 Altima.
Ouais.
Alors, ça aussi, c'est dossier réglé chez Nissan. On va cesser la production de ça à la fin du terme actuel. Alors, voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Hugues sera de retour pour nous parler du Lincoln Blackwood la semaine prochaine. Tu ne connais pas ça, hein?
Non, je ne connais pas ça. J'ai hâte d'entendre Hugues qui va m'expliquer ça.
Salut!
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.